C'est le MAG avec les étudiants du Master en Stratégie de Communication Internationale, Dorian Rodriguez.
Bonjour à tous et bienvenue sur RCF. Vous écoutez Curious Live et c'est parti pour la deuxième émission. J'ai avec moi à ma gauche Maxime, en face de moi Irena et à ma droite Lina.
Bonjour tout le monde. Alors oui, pour cette deuxième émission autour de la thématique de l'art et de la communication, nous avions envie de parler de publicité et plus précisément des liens qui existent entre l'art et les publicités.
Exactement. Et qu'en est-il de l'utilisation de l'art et des œuvres d'art dans les publicités ? Nous avons posé la question à un ensemble d'étudiants et voici ce qui nous est répondu.
Qu'est-ce que tu penses de l'utilisation de l'art dans la publicité ?
Je trouve que ça peut être vraiment pertinent parce que l'art, c'est quelque chose de super subjectif.
Je pense que c'est une bonne chose déjà parce que la publicité, c'est aussi un art. Et donc le fait d'allier deux arts, c'est une bonne manière aussi de démocratiser la culture.
Alors du coup, est-ce que les publicités qui reprennent les codes de l'art te semblent peut-être un peu plus intrigantes ?
En général, oui, je dirais que je suis plutôt sensible à l'art. Et pour le coup, on a souvent une utilisation de couleurs, de musique bien particulière.
Oui, et je pense aussi que ça peut toucher un autre public, dans le sens où parfois on peut voir des pubs et pas forcément faire attention. Et là, ça va donner un esthétisme qui est différent.
Ça permet de se différencier, ça change, il y a beaucoup de publicités qui sont assez redondantes, on retrouve toujours les mêmes.
Est-ce qu'il y aurait une publicité qui utilise de l'art qui t'a marqué ?
En tête, là, ce qui me vient, ce serait une publicité de Lego, où ils avaient repris des tableaux très très connus, donc la Joconde.
Oui, en fait, il y a une publicité du coup qui a été faite par Dior et qui reprend le déjeuner sur l'herbe d'Edouard Manet. Et je trouvais ça hyper intéressant parce que les modèles, ils reprennent leur posture et tout, et c'est grave cool.
Alors, on a pu entendre que les gens sont quand même très sensibles à l'utilisation de l'art et de codes artistiques dans la publicité et que ça semble beaucoup plus les impacter que des publicités classiques, en fait. Alors, Irena, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur les liens que l'on fait entre l'art et la publicité ?
Oui, bien sûr, Lina. Alors, l'art, c'est souvent perçu comme une quête de l'expression personnelle et de la beauté, et la publicité plutôt comme un outil au service du commerce. Pourtant, quand les deux univers se rencontrent, ils peuvent produire des résultats vraiment incroyables. Et la publicité emprunte à l'art son pouvoir émotionnel pour capter l'attention du public, transformant des messages commerciaux en véritables œuvres visuelles qui marquent les esprits. Et l'art dans la publicité permet de créer des campagnes mémorables et de créer une histoire de manière subtile mais percutante. En associant la créativité artistique et les stratégies de communication, la publicité devient plus qu'un simple argument de vente. Elle devient une expérience sensorielle et émotionnelle, créant une connexion durable avec le consommateur.
Oui, c'est clair que les marques utilisent de plus en plus l'art pour se démarquer et créer des campagnes percutantes. Par exemple, Louis Vuitton a collaboré avec Takashi Murakami en 2002, ce qui a donné naissance à la fameuse collection Monogramme Multicolore. Cette collection a vraiment transformé l'image de la marque en apportant une touche colorée et ludique. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux et le numérique, l'art est partout, notamment avec les œuvres digitales et les NFT par exemple. Pendant la pandémie, ça s'est encore intensifié, puisque les marques ont cherché à garder un lien avec un public qui était un peu perdu. Et en parlant de mélanger la publicité et l'art, Maxime, est-ce que tu peux nous présenter un artiste emblématique de ce mouvement ?
Absolument, Dorian. Andy Warhol, artiste américain polymorphe du XXe siècle, savait intuitivement comment formuler une idée qui captivait continuellement l'attention des médias et élevait sa propre marque. Plus impressionnant encore, il a trouvé le moyen de transformer cette publicité en revenus qui ont fait grimper la valeur de son art à des sommets totalement inégalés. Être diffusé, toucher le public, pousser à la réflexion, faire réagir, Andy Warhol a lui-même mis en corrélation l'art et la communication à travers ses productions tout au long de sa carrière.
Oui, et avec son iconique sérigraphie Campbell's Soup Cans de 1962, l'artiste a su transformer l'œuvre d'art en produit banal et a interrogé la société de consommation. Par la même occasion, le succès de cette œuvre a aussi servi à la marque de soupe, qui est devenue connue et a fait le tour du monde. D'ailleurs, l'entreprise a utilisé l'œuvre dans ses superbes communications pour promouvoir ses propres produits. Donc Warhol a non seulement changé le monde de l'art, mais il a également ouvert de nouvelles voies dans le domaine du marketing et de la publicité qui nous influencent encore aujourd'hui.
Eh bien, tout à fait, Irena. Warhol a souvent affirmé être totalement fasciné par l'uniformité et l'accessibilité des produits de masse, disant par exemple que le Coca-Cola que boit une star, c'est le même que celui qui est bu par une personne ordinaire. En cela, il semblait adopter une attitude neutre, voire cynique même, face à la société de consommation, sans totalement la juger ouvertement. L'artiste a su poursuivre ses collaborations artistiques au profit de la publicité, avec le projet de la marque automobile BMW, du coup, BMW Art Car, une initiative unique qui a combiné l'art et l'automobile en invitant des artistes renommés à transformer des voitures BMW en véritable œuvre d'art. Donc lancé en 1975, ce projet a vu des créateurs tels que Roy Lichtenstein, David Hockney, ainsi que bah, du coup Andy Warhol, qui ont tous collaboré avec la marque. Chacun apportant son propre style distinctif pour redéfinir la carrosserie des véhicules, bah, du coup en véritable toile roulante. Hein. Du coup, ce projet montre bien comment une marque peut devenir un véritable ambassadeur culturel en associant son produit à l'art. La voiture devient plus qu'un simple moyen de transport, elle devient une œuvre d'art en mouvement, un symbole de prestige culturel.
Donc, je pense qu'on peut dire que l'objectif de Warhol n'était peut-être pas de dénoncer la société de consommation de manière directe ou frontale, mais plutôt de révéler son fonctionnement et sa répétitivité. Il a utilisé ses propres outils pour créer une distance critique, tout en laissant le spectateur tirer ses propres conclusions. Et en reprenant des objets du quotidien, des marques et des symboles de la culture de consommation, ces artistes questionnent la valeur de l'art et se placent dans une société dominée par le marketing. Ce dialogue donc entre art et publicité interpelle le public sur la marchandisation de la culture et sur l'idée que l'art peut se nourrir de l'univers commercial. Mais cette approche peut aussi être perçue comme une banalisation de l'art, ce qui soulève parfois des débats sur l'authenticité et la créativité artistique.
Eh ben, merci beaucoup Maxime, merci beaucoup Irena. Et maintenant, on va aborder un concept qui mélange à la fois l'art et le marketing, qu'on appellera le concept de l'arketing.
L'arketing, bah, ça m'a l'air très intéressant. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est exactement, Dorian ?
Eh ben, bien sûr, Lina. Selon tapagemedia.com, une agence de guérilla marketing, l'arketing est une contraction des mots art et marketing. Pour faire simple, cela désigne l'utilisation de l'art à des fins publicitaires. Et selon Bertrand Baltelot, un expert en marketing, c'est une pratique qui était utilisée par les marques de luxe au départ, mais qui aujourd'hui intéresse de plus en plus les marques traditionnelles, notamment celles de produits de grande consommation, comme on peut retrouver la fameuse Joconde, qui a été détournée des dizaines de fois dans des pubs.
Ah d'accord, je vois. Bah justement, ça me fait penser à plusieurs publicités contemporaines qui ont parfaitement su intégrer l'art dans leur stratégie de communication. Quand on reconnaît une œuvre d'art dans une publicité, il se passe quelque chose de spécial, non ?
Eh ben oui, complètement. Plusieurs mécanismes psychologiques et cognitifs se déclenchent. D'abord, l'aspect visuel est crucial, puisque l'art attire immédiatement l'attention par son esthétisme. Puis, il en ressort les codes publicitaires classiques. Une œuvre d'art, qu'elle soit classique ou contemporaine, est un symbole, un prestige et même une touche de nostalgie.
C'est bien vrai ça, on se sent tout de suite connecté à la marque parce qu'elle s'approprie un élément du patrimoine artistique. Et au-delà du visuel, il y a aussi une dimension intellectuelle. Le fait de reconnaître une œuvre célèbre flatte un peu l'intelligence du consommateur. Ça crée une sorte de récompense cognitive, entre guillemets, qui renforce l'engagement avec la marque.
Eh ben tout à fait. Ce n'est plus seulement une question de vendre un produit. L'art permet à la marque de créer un dialogue subtil avec son audience. Il devient un vecteur de sens qui ajoute des couches de symbolisme au message publicitaire. Ça rend la publicité non seulement plus attractive, mais aussi plus durable et mémorable. À présent, si vous le voulez bien, il est temps pour un petit interlude musical. Et d'ailleurs, on vous a préparé un petit jeu, donc un petit blind test publicitaire. Saurez-vous reconnaître à quelle publicité appartient cette chanson ? Je vous laisse l'écouter. Oh,
C'est le MAG avec les étudiants du Master en Stratégie de Communication Internationale, Dorian Rodriguez.
Vous êtes toujours sur RCE Bourgogne et vous écoutez l'émission Curious Live. Je suis toujours en compagnie de Lina, Maxime et Irina. Alors, est-ce que vous l'avez reconnu ? C'était bien sûr la musique utilisée dans la publicité pour la voiture Audi A3 e-tron de 2014 et le titre c'était Down the Road de C2C.
D'ailleurs, Dorian, est-ce que tu aurais des exemples concrets de marques qui ont intégré l'art dans leur identité ?
Bien sûr. Prenons Chanel, par exemple. La marque de haute couture française a souvent collaboré avec des artistes modernes. Pour la campagne du parfum Chanel numéro 5, ils ont travaillé avec un artiste qui s'appelle Jean-Paul Good et donc qui utilise des éléments visuels inspirés des mouvements cubistes et surréalistes. C'est un vrai mélange entre l'art et la publicité.
Ah d'accord, oui, je vois très bien. Un autre exemple plus connu qui me vient en tête, c'est celui de la laitière. Le logo de la marque est directement inspiré du tableau de Johannes Vermeer de 1658 qui s'appelle également La laitière. La marque a conservé cette référence visuelle tout en l'adaptant à des fins commerciales. En liant l'image de la laitière de Vermeer à ses yaourts et desserts, la marque sous-entend que ses méthodes de fabrication respectent des traditions ancestrales en opposition à des produits industrialisés. Cette référence historique permet à la laitière de se différencier de ses concurrents, notamment dans un secteur où la notion de naturel est particulièrement valorisée.
Exactement. Cette femme en coiffe typique du XVIIe siècle, versant du lait, évoque l'authenticité, la simplicité et la tradition. La laitière a su utiliser cette image pour renforcer son positionnement de marque artisanale et authentique. C'est vrai que la laitière, c'est un exemple parfait d'un visuel qui reste gravé dans les mémoires. Personnellement, à chaque fois que je vous la vois, j'ai tout de suite envie de manger un yaourt. Et le choix de conserver le visuel inspiré de Vermeer au fil des années renforce un sentiment de continuité et de sécurité chez le consommateur. En France, la marque La Laitière existe depuis plus de 50 ans. Et cette longévité est combinée à une identité visuelle stable et très reconnaissable.
Alors c'est un excellent exemple de la manière dont une marque peut se distinguer en créant un pont entre un patrimoine artistique et la consommation moderne. L'art permet aussi aux marques de revendiquer une certaine authenticité.
Oui, et d'ailleurs, certaines vont même encore plus loin. C'est le cas de IKEA en 2022, qui a collaboré avec des artistes locaux dans plusieurs pays pour créer une série limitée de produits. Chaque œuvre racontait une histoire liée à sa région, mettant en avant l'artisanat local et la diversité culturelle.
C'est vraiment une belle démarche parce que ça touche les consommateurs non seulement sur le plan esthétique, mais aussi émotionnel. Ça raconte une histoire, ça fait vivre une expérience à travers l'art. Mais alors je me demande, comment faire de l'arketing dans le monde d'aujourd'hui, Irina ?
Oui, très bonne question. Alors toujours selon les mots de Tapage Média, sur le papier, faire de l'arketing peut sembler être un jeu d'enfant. Et pourtant, la clé du succès se situe dans une synergie plutôt subtile entre l'œuvre d'art et le message de marque. En fait, la démarche artistique du créateur doit participer à l'affirmation de la marque sans pour autant brider son propre processus de création. En d'autres mots, l'artiste et son art ne sont pas de simples panneaux publicitaires. Juste une signature ne suffit pas, car l'impact serait moindre. Tout l'enjeu pour les marques est donc de trouver le juste équilibre pour maximiser l'impact tangible de l'art auprès des consommateurs, tout en laissant la magie opérer. Et j'entends par là, laisser à l'artiste et son œuvre toute sa sensorialité, son humanité et sa part émotionnelle. En plus, l'essor des nouvelles technologies et des plateformes digitales permet aux marques de développer un marketing dit 2.0 et d'entrer dans l'ère de l'hyper-telling. Maxime, tu peux nous éclairer sur ce terme ?
Tout à fait. Alors, selon le site AdSwerve, l'hypertelling, c'est l'idée que l'art, du coup, de raconter des histoires repose désormais sur la participation de l'utilisateur. Donc l'immersion, l'expérimentation et les expériences. Surtout, il s'agit de développer une histoire créée par l'utilisateur lui-même, mais sous l'angle voulu d'une marque. Et grâce à ça, les entreprises découvrent de nombreuses opportunités de collaboration créative. Et en fait, l'marketing digital devient un canal essentiel de dialogue et d'échange entre les marques, les consommateurs et les artistes.
Et Maxime, est-ce que tu penses que c'est parfois difficile pour les artistes de travailler avec des marques ? Est-ce qu'ils doivent, on va dire, entre guillemets, se compromettre ?
Ah, ça, c'est une super question. Je pense que ça dépend totalement de la marque et puis de la manière dont ils vont aborder la collaboration. Les meilleures collaborations, ce sont celles qui laissent à l'artiste une vraie liberté créative, où la marque va rester seulement une sorte de vitrine pour leur art.
Et justement, si on parle de stratégie de communication, cette stratégie est la clé pour définir ce que devient une campagne. On peut prendre l'exemple récent de la collaboration entre Louis Vuitton et Yayoi Kusama en 2023. Kusama est une artiste japonaise contemporaine de renommée internationale qui est connue pour son univers visuel, notamment ses motifs de poids. Ce partenariat a donc permis à Louis Vuitton d'associer sa marque à un univers artistique très reconnu, renforçant son statut culturel et son image de marque.
Tout à fait, Irina. Et la stratégie de communication ne se limitait pas aux produits. Louis Vuitton a transformé ses boutiques physiques en espaces immersifs où l'art de Kusama prend vie. La vitrine du flagship de Louis Vuitton sur les Champs-Élysées et d'autres lieux iconiques, comme par exemple à Tokyo ou à New York, ont été décorés avec des installations artistiques de poids colorés, donc inspirées directement de l'esthétique de l'artiste. Ces installations, elles permettent aux consommateurs d'entrer dans son univers, donc dès l'arrivée dans les boutiques, ce qui va au-delà d'une simple expérience d'achat, hein, pour devenir une expérience totalement immersive. Ça permet, encore une fois, du coup, de générer une connexion émotionnelle entre le public, l'art et la marque.
C'est vraiment un exemple qui est super intéressant, je trouve. Et est-ce qu'ils ont misé sur d'autres moyens pour optimiser l'impact de cette stratégie, justement, Maxime ?
Bah, bien évidemment. L'un des piliers essentiels de leur stratégie était dans l'amplification digitale de la campagne. Louis Vuitton, donc, ils ont utilisé le pouvoir des réseaux sociaux pour maximiser la portée de la collaboration, donc en encourageant le contenu généré par les utilisateurs eux-mêmes et en y intégrant des éléments visuels conçus pour devenir viraux.
D'accord, mais au niveau des chiffres, du coup, Maxime, ça a donné quoi, cette campagne ?
Alors, mon bon Dorian, d'après le site Marketing X, la stratégie de la campagne s'est traduite par des résultats importants sur les réseaux sociaux comme X, avec plus de 90 millions d'impressions globales pour les hashtags et puis les posts sponsorisés autour de la campagne.
Ah oui, d'accord, effectivement, la stratégie pour cette collaboration entre art et publicité semble avoir été un vrai succès. Ça me fait penser à une vidéo que j'ai vue sur Instagram il y a pas longtemps avec Lady Gaga. Irina, il me semble que tu l'as vue aussi, non ?
Oui, carrément. Le 25 septembre dernier, le musée du Louvre et la pop star américaine Lady Gaga ont partagé sur leur compte Instagram un mini-clip très audacieux réalisé par Warner Bros. Dans ce court-métrage, qui est tourné dans les galeries du musée, la chanteuse s'amuse à détourner l'image de la Joconde en dessinant un large sourire sur la vitre protégeant le tableau à l'aide de son rouge à lèvres. Surprise, c'est le Louvre lui-même qui a invité Warner Bros. Pour réaliser cette campagne de promotion pour le film Joker, Folie à deux. La vidéo permet au musée d'annoncer sa prochaine exposition également, Figure du fou du Moyen-Âge au romantique, une exposition qui ouvrira le 16 octobre prochain.
On peut dire que c'est un coup de pub qui est quand même très malin. Je me demande comment le public a réagi. Maxime, est-ce que t'en sais plus là-dessus ?
Tout à fait. La campagne a elle aussi été largement partagée sur les réseaux sociaux, donc générant un buzz considérable. Mais les émotions sont mixtes néanmoins, avec une part d'un côté d'émerveillement et de l'autre côté une part de critique envers le fait qu'elle manquerait potentiellement de respect envers les œuvres d'art et le lieu emblématique qu'est le Louvre.
Merci Maxime. C'est vrai que j'ai l'impression que le public est de plus en plus sensible à l'utilisation de l'art dans la communication, mais que cette sensibilité dépend fortement de la manière dont l'art est utilisé. Il doit être intégré de façon authentique, cohérente et émotionnellement engageante pour que le public réagisse de manière positive.
Alors la prochaine fois, regardez bien autour de vous. Et si la prochaine publicité que vous voyez cachait en réalité un message artistique ? L'art et le marketing se mêlent subtilement et sans même forcément vous en rendre compte, vous êtes constamment exposé à cette fusion dans votre quotidien. Serez-vous capable de repérer l'art marketing qui vous entoure ?
Eh ben, merci Maxime, merci Irina et merci Lina. Merci à toutes pour votre écoute et c'est déjà la fin de cette deuxième émission, une émission que vous pouvez retrouver en replay sur rcf.fr sous le nom C'est le mag-étudiant Massy. Quant à nous, on se retrouve le mois prochain sur RCF en Bourgogne pour échanger sur une nouvelle thématique en lien avec l'art et la communication.